All right, it's 8:35.
Il est 8h35, donc nous avons déjà 5 minutes de retard. Nous allons donc commencer l'enregistrement. Bonjour à tous, je m'appelle Maggie Serrad. Je suis vice-présidente de la conformité contractuelle. Merci d'être avec nous ce matin pour cette séance sur la conformité contractuelle. Cette séance est ouverte à personnes qui sont présentes à la réunion de l'ICANN ainsi qu'aux personnes qui sont présentes à distance. Et soyez les bienvenus si vous souhaitez participer. Notre objectif, c'est de vous faire une mise à jour de très haut niveau sur les activités, les évolutions depuis l'ICANN 53. Et ensuite, la grande partie de la séance sera ouverte. Vous pourrez dialoguer avec nous. À ma gauche, j'ai Alan Grogan, mon patron. Et ensuite, j'ai Jennifer, Laetitia, Owen, Zoura et Elif, qui sont avec moi au sein de l'équipe conformité. Nous avons également la plupart du personnel de conformité qui participe à distance. Ceci étant, nous allons commencer. Cette séance est enregistrée. Donc, la première mise à jour depuis ICANN 53, c'est que nous avons lancé une campagne de mise à jour sur la conformité. Nous nous sommes rendus compte par le biais de l'administrateur du site web qu'il y a beaucoup de questions des bureaux d'enregistrement, des titulaires de nom de domaine par rapport à comment est-ce que je peux faire une plainte, comment est-ce que je le fais. Donc plusieurs questions. Nous avons lancé une campagne avec l'aide de notre équipe de communication et l'objectif est tout simplement d'améliorer les connaissances et la sensibilisation de la communauté par rapport à la conformité contractuelle. Nous avons donc fait une vidéo pour que les gens puissent connaître ce qui se passe dans le domaine de la conformité contractuelle. Et nous avons également distribué des brochures sur ce sujet. Les liens sont affichés, ils sont également sur YouTube et sur notre page d'accueil pour le site conformité. Tous ces documents sont disponibles en 8 langues. Ce transparent nous a été fourni par notre équipe communication. Nous avons lancé la campagne entre le 15 et le 28 septembre. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient la terminologie, donc organique par rapport à payé, au début du lancement, notre communication a lancé une campagne payante. Et donc, vous voyez le retour sur investissement. Pour quelques centaines de dollars d'investissement, nous avons pu réellement augmenter l'accès et la visibilité de nos vidéos et de nos données. Nous sommes toujours en processus de finalisation des vidéos en chinois. Nous essayons d'atteindre d'autres auditoires, comme vous le voyez. Alors, autre domaine où nous continuons de faire des mises à jour sur la communauté, c'est donc en termes d'amélioration continue. L'amélioration continue nous vient de différentes sources. Parfois, c'est une mise à jour des systèmes et ces mises à jour de systèmes ne sont pas forcément optionnelles. Par exemple, amélioration d'un logiciel pour améliorer la sécurité d'un outil. Beaucoup de nos mises à jour, beaucoup de nos améliorations continues sont guidées par le feedback de la communauté, y compris les parties contractantes sur les systèmes ou sur les réponses à la conformité. Ou alors, cela peut être lancé ou initié par un développement de politique ou par des politiques qui seront mises en œuvre. Donc, ce n'est pas uniquement les partantes qui doivent se préparer pour de nouvelles politiques qui arrivent, mais il faut également pouvoir s'occuper d'avoir les systèmes nécessaires pour s'adapter aux nuances des politiques. Alors, activité d'audit. Nous faisons un rapport lors de chaque réunion là-dessus parce que nous effectuons continuellement des audits avec les parties contractantes. Les objectifs des audits sont doubles. Premièrement, pouvoir faire part à la communauté et au public que nous avons un environnement stable et sécurisé. Mais deuxièmement, c'est également pour nous aider d'agir de manière proactive par rapport à toute opportunité les problèmes qui pourront survenir. Donc, les audits nous permettent de nous occuper de manière proactive avec les parties contractantes pour identifier les problèmes potentiels. Et parfois, lorsqu'on pense qu'il y a un problème, c'est peut-être le fait que la partie contractante accumule ces données de manière un petit peu différente. Et donc, nous avons besoin de clarifier. Mais cela nous permet d'être sensibles à l'environnement et de nous occuper des problèmes de manière proactive, de manière à éviter tout domaine problématique par l'avenir. Donc, la première mise à jour, c'est le nouveau programme d'audit sur les accords des opérateurs de registre. Donc, il a été terminé en mars 2015. Et vous voyez donc que nous y faisons référence sur la base du mois de lancement. Donc, le programme d'audit de mars 2015 a été fait pour les opérateurs de registre. Et à la fin de la phase d'audit, et à la fin des rapports et des corrections, nous avons eu un opérateur de registre qui était toujours en phase de correction. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est terminé. Et donc, tout a été terminé. Donc, les 11 sont en conformité. L'audit a été publié, le rapport a été publié avec une liste des participants, mais aussi certains des problèmes principaux que nous avons rencontrés, l'impact qu'ils ont eu sur la communauté et ce que nous avons fait pour nous en occuper. Autre audit lancé en septembre, c'est donc l'audit des bureaux d'enregistrement. Donc, 69 bureaux d'enregistrement. Les demandes d'information ont été terminées. Et cette semaine, les 69 bureaux ont terminé la phase d'audit. Donc, la demande d'information, les données ont été téléchargées par les parties contractées. Et donc, nous avons eu zéro problème. Nous sommes également en processus de mise à jour de la page d'audit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons fournir des données dans les 8 langues. Et les données que nous allons fournir, ça va en fait être sous forme de modèle. Il y a eu beaucoup de demandes dans la communauté qui nous disaient la chose suivante. Alors, à quoi ça ressemble lorsque vous nous envoyez, par exemple, un contact, le rapport d'audit, à quoi ressemble-t-il? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des modèles de toutes ces communications que nous avons avec les parties contractantes. Dans le cadre de l'audit, nous allons traduire et publier sur le site web. Donc, j'imagine que d'ici la prochaine réunion de la CAN, tout ceci sera prêt. Alors, cette diapositive vous explique les différents critères que nous avons pris en que nous lançons un audit. Alors, il y a des critères très simples. Si vous n'avez jamais été audité, vous aurez ces informations. Donc, l'objectif... Nous avons 2000 bureaux d'enregistrement. Bien sûr que notre objectif, ce n'est pas de faire un audit de tout ceci tous les ans ou tous les deux ans. Non. Mais l'objectif est de faire un échantillonnage sur la base des critères qui sont affichés à l'écran. Alors, un des critères, c'est également, par exemple, si on a eu une partie contractante qui a eu une infraction au cours des derniers mois. Nous avons une approche proactive de manière à ne pas avoir ce genre de choses qui se répètent. Alors, cette diapositive... Alors, tout ceci a déjà été publié, d'accord, dans le calendrier de la réunion. Alors, quels sont les problèmes que nous avons vus dans cet audit de RAA? Vous l'avez donc à l'écran. Alors, l'audit de RAA lancé en septembre est en phase d'audit maintenant. Et ensuite... Il y aura un processus de notification 1, 2 et 3. Alors maintenant, vous pouvez voir un petit peu où est-ce que les bureaux d'enregistrement se trouvent. Encore une fois, il y aura les questions à la fin. Je ne vais pas regarder toutes les diapositives. Vous avez la présentation, mais nous sommes prêts à répondre aux questions par rapport à n'importe quel transparent. Alors, pour ce qui est des outils de mesure internationaux, je vais vous en parler pendant quelques secondes. Donc, nous avons... fait référence à l'ancienne réunion ICANN. Donc, cela vous montre un petit peu la tendance. Cela vous permet de comparer. Également, dans le cadre de notre rapport, nous aimons vous faire part du volume, mais aussi des délais d'exécution. Parce que parfois, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de collaboration. Mais regardez un petit peu les délais d'exécution. Ceci se mesure en nombre de jours ouvrés et vous avez ici des moyennes parce que les délais d'exécution dépendent du type de personne avec qui on travaille. Par exemple, l'exactitude du Ruiz, par contrat, il faut 15 jours. Il y a d'autres obligations contractuelles qui nécessitent 24 heures ou 4 heures, ça dépend. Donc, ceci dépend des différentes obligations que nous avons. Donc, nous en faisons part à la communauté. Et même chose pour les opérateurs de registre. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue pour nous dire ce qui se passe en termes de conformité pour les bureaux d'enregistrement. L'intervenant au micro. Merci, Maggie. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces diapositives. Je vais vous donner certains grands points, mais vous savez que la phase 1 ARS du WHOIS, donc un échantillonnage de données pour déterminer si la conformité avec les normes, avec le RA est bonne, il y a un rapport qui a été publié, il y a un lien, il y a un webinaire qui a été fait là-dessus. La conformité a reçu les domaines identifiés comme ayant domaine de non-conformité. Nous avons dû changer notre système pour accepter le fichier puisque l'ancien pilote ARS du WHOIS présentait certains problèmes en termes de données et donc nous avons dû traiter de ces problèmes. Donc il y a beaucoup plus de données à l'intérieur de manière à ce que les parties contractantes puissent savoir exactement quel est le problème. Donc là, vous avez certains des problèmes principaux que la conformité voit toujours en ce qui concerne les bureaux d'enregistrement et en ce qui concerne certains des problèmes pour le RA de 2013, ainsi que des politiques de consensus, la validation des données WHOIS. Et ceci est en train d'être pris en compte par les spécifications, la révision sur les spécifications du programme à venir. Il y a des bureaux d'enregistrement qui n'envoient pas des rappels au moment également. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, le 31 juillet de cette année, il y a eu une mise à jour aux règles UDRP, donc de gros changements. Les bureaux d'enregistrement doivent désormais verrouiller. Et donc, il faut vérifier que le verrou a été fait. Il faut fournir les informations et les vérifications d'informations de la part du fournisseur. Il y a également des détails par rapport à ce qu'il faut faire avec le verrou, davantage d'exigences en termes de communication pour le processus EDRP. Nous avons dû mettre à jour notre formulaire de plainte. Donc, nous avons reçu des plaintes des fournisseurs EDRP, comme quoi les verrous n'avaient pas été mis en œuvre. Donc, le formulaire a également été chargé sur notre système. Ensuite, s'il vous plaît, autre chose qui continue d'être important, c'est nos rapports d'abus. Donc, cette diapositive montre un petit peu certaines des choses que l'ICANN peut faire pour répondre à une demande. Tous ces rapports sont confirmés. On essaie de vérifier que la personne qui fait le rapport a contacté le bureau d'enregistrement et n'a pas simplement contacté l'ICANN comme première source. Nous souhaitons voir une communication entre la personne qui fait le rapport et le bureau d'enregistrement, entre les deux, donc, avant de contacter la partie contente. Il y a un certain niveau d'action que les bureaux d'enregistrement peuvent engager. L'ICANN essaye de voir si la plainte d'abus a été envoyée au titulaire de nom de domaine. Et il y a d'autres choses qui peuvent être faites également. Ensuite, donc vous avez ici certains des efforts en termes de politique que le personnel a mis en place depuis la dernière réunion de l'ICANN. Il y a eu un changement en termes de transfert de politique, quelque chose qui sera fait l'année prochaine. Également l'IRTP, le RDDS, il y a d'autres changements qui devraient être apportés pour les parties contractantes en janvier 2016. Alors là, vous avez un résumé des différents types de plaintes de bureaux d'enregistrement que nous avons en termes de volume, des plus importants aux moins importants, entre les différentes réunions. Donc, alors pour souligner, vous avez certains pour lesquels nous n'avons pas reçu d'informations suite aux demandes. Il est également possible qu'il y ait eu des plaintes d'exactitude du WHOIS sur le nom de domaine ou alors des questions de renouveau de nom de domaine pour un nom qui a déjà été renouvelé. Donc, tous ces dossiers sont revus par le personnel conformité avant d'être envoyés aux parties contractantes. Donc là, vous avez ce qui a été terminé. Ensuite, s'il vous plaît, là, vous avez les raisons d'interruption pour différents types de plaintes, pardon. Donc, bien sûr, l'inexactitude du WIS, c'est la partie la plus importante. Les domaines ont été soit suspendus, soit annulés. Alors là, davantage d'informations, vous pouvez regarder un petit peu. Je ne sais pas si la présentation est en ligne. Oui, c'est bon. Elle est en ligne, donc je m'excuse pour Adobe Connect parce que certaines des diapositives semblent ne pas apparaître. Mais de toute façon, vous avez la présentation dans le lien vers cette session. Bonjour, Jennifer Scott-Omiscro. Je m'occupe des bureaux d'enregistrement, des opérateurs d'enregistrement pour l'ICANN. Alors, depuis 2003, le personnel continue de s'occuper des plaintes des opérateurs de registre et nous continuons de travailler à la conformité des contrats. Donc, voilà les points que nous voyons depuis l'ICANN 53, y compris la poursuite des demandes de traitement. Nous occupons également de nous assurer que les exigences UDRP sont bien conformes. Le personnel s'occupe des groupes de travail. Donc, ce qui s'est passé récemment, c'est la correction des identifiants d'objets. Donc, il y a l'IPP, il y a les dépôts légaux de données, etc. Nous avons vu un certain nombre d'opérateurs de registre utiliser des voix qui n'étaient pas dans le bon format. Et donc, un avis a été émis indiquant qu'il y aurait des avertissements qui seraient émis s'il n'y avait pas eu une correction d'ici novembre de cette année avec donc une mise en application stricte en janvier 2016. Le personnel se focalise également à s'assurer que l'opérateur de registre est en conformité avec le système URS. C'est un mécanisme de protection des droits pour la protection de la propriété intellectuelle et des marques. Donc, on peut verrouiller suite à une plainte en 24 heures de l'avis de plainte du fournisseur URS. Et même chose par rapport au volume des bureaux d'enregistrement. Vous avez ici les données relatives aux opérateurs de registre en termes de volume de plaintes et en termes de type de plainte. Et on voit le nombre d'avis qu'il a fallu avant que la plainte soit close. Même chose que pour les plaintes des bureaux d'enregistrement. Vous avez là les raisons qui sont utilisées pour fermer les plaintes ou pour clore les plaintes en ce qui concerne les opérateurs de registre et l'accès aux fichiers de zone. Et là, vous avez les plaintes donc par rapport au SLA et les plaintes pour interruption contrôlée. Maggie au micro. Ceci étant, notre présentation est terminée et donc nous allons maintenant dialoguer avec vous tous. Alors, avant de parler, je vous demande de vous identifier et de nous dire qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Padmini. Je suis de l'Internet Society en Inde et j'avais une question par rapport à votre partenaire d'audit. Et il y a des informations qui m'ont été données que j'aimerais citer. Il y a eu une domette de proposition de sélectionner un partenaire d'audit qui était faite pour améliorer. Et donc, cette RFP était basée sur des compétences nécessaires pour ce service et donc qui correspondait à un processus de présélection. Donc, si j'ai bien compris, c'est KPSG qui a été sélectionné. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus par rapport à ses compétences et à ses capacités? Maggie Serra de micro. Oui, alors, les compétences spécifiques, comme vous le savez, dans l'industrie de l'ICANN, c'est nouveau. Il n'y a pas d'audit qui a été écrit pour cet environnement. Mais donc, les compétences que nous recherchons, de manière très simple, sont les suivantes. Donc, il y a déjà la présence internationale. Et vous le voyez peut-être dans notre rapport d'audit, nous recevons des documents dans 20 langues, voire plus. Donc, nous avions également besoin de quelqu'un qui ait les outils, les capacités pour s'occuper des audits, pour travailler avec nous à ce niveau. Donc, nous avons énuméré tout ceci. Je n'ai pas tout mémorisé, mais je me souviens de manière très claire que nous recherchions des organisations qui aient une présence internationale, mais pas uniquement. également la capacité d'être présent et d'avoir les compétences au niveau international. Alors, un petit suivi là-dessus, une nouvelle intervenante au micro. Donc, encore une fois, vous avez dit que l'ICANN continuera d'évoluer si l'intérêt public et la divulgation RFP dépassent la nocivité. Donc, est-ce que vous allez considérer le RFP pour le public? Maggie, au micro. Ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est non seulement de publier le formulaire RFP, parce que le formulaire RFP varie. Les audits ne sont pas toujours les mêmes. Et parfois, les audits sont focalisés dans un domaine ou alors ils incluent plusieurs choses. Ce que nous avons cherché à faire, c'est donc par la sensibilisation, par le biais de la documentation que vous allez voir dans la section de sensibilisation sur la page de conformité sur des audits, c'est que nous publions certaines dispositions, mais pas nécessairement le RFP, le formulaire RFP, parce que c'est quelque chose que nous faisons avec les parties contractantes. Mais ce que nous fournissons à la communauté pour transparence, c'est que nous faisons une liste de ce sur quoi nous travaillons et nous publions également l'envergure des travaux RFP. Max, au micro. Est-ce que vous pourriez clarifier la chose suivante, s'il y a un retard de livraison, résultat des audits pour cette année pour les bureaux d'enregistrement, est-ce que cela est un résultat de la campagne d'audit ou est-ce que... Quelles sont les attentes? Quelle était la raison? Maggie au micro. Merci, Maxime. Donc, je vais sur cette positive-là. Donc, en principe, lors de la demande d'information, la phase, donc le premier avis d'audit... Les parties contractantes ont 15 jours ouvrés pour répondre aux différentes questions qui sont posées et donc pour télécharger les données. On a un processus 1, 2, 3 qui permet de collaborer. Donc, ce qui se passe, c'est que à la fin de la phase de ce processus 1, 2, 3, si une partie contractante n'a toujours pas téléchargé son document, à ce moment-là, il y a... nous en forçons, mise à exécution. Donc, le retard est dû au fait que cette partie contractante avait des problèmes de format. Donc, de manière systématique, il y avait des besoins de mise en application. Donc, voilà pourquoi le plan de correction proposé par la partie contractante a dépassé la date d'audit. Donc, nous avons suivi séparément, terminer l'audit pour cette partie. Max, au micro. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une fin de l'audit du mois de décembre pour l'accord de l'opérateur de registre? Oui, parce que lorsque de réunions précédentes, nous avions un calendrier. Je ne sais pas, on parlait par exemple de fin août. Est-ce que vous avez mis ces dates? Vous l'avez peut-être vu sur le premier point. Nous avons terminé le programme d'audit de mars 2015. Donc, cet audit qui a été lancé en mars est maintenant terminé. Maintenant, nous avons un audit de bureau d'enregistrement en cours et nous sommes en cours de planification de la série prochaine d'audit de bureau d'enregistrement. La question, c'est que le rapport d'audit n'a pas été livré. Nous aimerions savoir quand est-ce qu'on peut s'y attendre parce que mon département juridique me demande si nous en sommes à la phase où nous avons réussi notre audit ou est-ce que nous sommes toujours en cours d'investigation? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je leur ai donné la date que vous m'aviez donnée dans votre ancien transparent et tout d'un coup, nous n'avons plus d'informations par rapport au calendrier. Donc, est-ce que tout va bien ou quoi? Maggie au micro. Alors, je vais vous parler directement parce que tous les rapports d'audit ont été livrés aux différentes parties contractantes. Donc, on fera un suivi séparément à ce moment-là. Merci. Jim Prendergast avec le Galway Strategy Group. Alors, puisqu'on est sur cette diapositive, lors de la séance de Los Angeles, on avait parlé, en tout cas du point de vue des bureaux d'enregistrement, de ceux qui avaient reçu un avis comme quoi ils allaient peut-être être inclus dans le programme d'audit, ceux qui n'avaient pas été inclus, donc ils avaient été informés par email. Est-ce que c'est ce qu'on a fait là avec cette série ou Maggie Micro? Merci pour cette question. Oui, nous avons effectué ceci avec cette série. Et je vais vous dire un petit quelque chose. Donc, ce qui s'est passé, en fait, lors du sommet GDD, donc, qui est un sommet intercession qui a eu lieu en septembre, qui a donc été mené par le groupe GDD. Et donc, la conformité a fait partie de ce sommet, puisque nous avons parlé de différents domaines. Il y a eu une demande des parties contractantes, comme quoi, même si nous envoyons une pré-notification, une notification pré-audit, pardon, ce n'est pas en fait... Cela ne vous dit pas que vous allez être audité, c'est simplement que vous savez qu'il va y avoir un audit. On envoie ceci à toutes les parties contractantes et ceux qui sont sélectionnés recevront une demande d'information. Donc, au sommet, ce que nous avons entendu de la part des parties contractantes, que lorsque vous nous envoyez une notification avant l'audit, il faut nous dire si vous ne nous sélectionnez pas. Ils souhaitaient donc avoir une communication supplémentaire. Donc, nous avons mis ceci en place pour cette série. Et je suis surprise parce qu'en fait, finalement, les gens ont été davantage perdus que de ne pas recevoir de notification pour leur dire qu'ils n'avaient pas été sélectionnés. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions. Les gens m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous m'envoyez ça? Surtout pour ceux qui n'étaient pas présents et qui participaient au sommet. Donc, ils n'étaient pas au courant. Donc, vous voyez, il y a un petit peu une lutte à savoir... Bon, comment est-ce qu'on communique? Peut-être qu'on a trop communiqué. Nouvel intervenant au micro. Je suis heureux de savoir que vous l'avez fait parce que c'est positif, parce que vous répondez en fait aux demandes des parties contractantes malgré le problème qu'il y a eu. Alors, deuxième question. Vous auditez à la fois les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre. Est-ce que vous auditez sur la base d'accréditation, sur la base des familles? Maggie au micro. Oui et oui. C'est ça la réponse. Comme vous le savez pour le reste de la salle, toutes les parties contractantes ont des modèles commerciaux différents. Donc, en termes de... Je ne parle pas d'intégration verticale, je parle de bureaux d'enregistrement. Ils ont peut-être d'autres bureaux d'enregistrement avec lesquels ils sont associés. Donc, une des choses que nous demandons lors de l'audit, donc encore une fois... Nous souhaitons être proactifs dans nos demandes d'audit, mais nous souhaitons également être raisonnables parce que pour beaucoup, ils opèrent selon le même modèle. Cela veut dire les mêmes processus, le même système, les mêmes équipes de conformité. Donc, nous posons la question. Et très souvent, lorsque nous vérifions avant d'effectuer un audit, cette association ne nous a pas été donnée, mais les bureaux d'enregistrement nous le disent. Donc, nous le faisons par le biais de l'accréditation. Donc, le programme... De 2001 et de 2009, à l'époque. Et là, nous sommes basés sur le RA de 2014. Mais si vous regardez cette diapositive 9, vous voyez que parfois, ceux qui faisaient partie de l'audit précédent, mais il y a eu un pont au cours des 12 derniers mois et un roulement en 2009. Alors, le suivi, en fait, ma question, elle était basée sur une statistique. Donné par Akram lundi, il y a eu donc un ajout de 579 nouvelles accréditations de bureaux d'enregistrement. Donc, est-ce que vous avez un plan pour suivre cette croissance? Parce que la croissance continue. Donc, comment est-ce que la conformité va s'occuper de ça? C'est super, cette croissance, mais quand même, c'est beaucoup. Oui, nous avons un plan. Maggie au micro. Nous avons un plan et ça, c'est un des critères. Étant donné que nous n'avons pas de nom de domaine enregistré, cela a un impact sur les critères. Donc, il faut être raisonnable en termes de sélection. Quel est le niveau d'activité? Quel est le volume d'enregistrement? Garde également les nouvelles nuances pour savoir s'il y a des opportunités. Et une petite correction, ON s'occupe de l'aspect opérationnel, donc des plaintes. Nous avons qui s'occupe du risque, qui est séparé et qui s'occupe des audits. Nouvel intervenant. Et la partie tierce vous aide également dans ce domaine, non? Maggie au micro. Oui. Donc, ce que nous appelons l'augmentation. Mais c'est toujours l'équipe de conformité de l'ICANN qui a une communication directe. Distance. Jackson nous demande la chose suivante. Vous avez dit que lorsqu'une plainte est reçue, vous vérifiez si la personne qui s'est plainte a contacté le bureau d'enregistrement. Est-ce que la seule question est de savoir si le bureau d'enregistrement a été contacté ou est-ce que vous évaluez la qualité du contact? Si c'est plus qu'une question binaire de la part du contact, comment est-ce que vous évaluez la... Nouvel intervenant au micro. J'y ai fait référence à cette plainte d'abus. Il y a donc un certain nombre de plaintes que nous vérifions. pour savoir si la personne qui a signalé a contacté le bureau d'enregistrement. Donc, par exemple, si c'est une plainte de transfert, c'est un type de plainte que nous vérifions. Nous vérifions s'il y a eu contact du bureau d'enregistrement. En termes d'exactitude du WHOIS, il n'est pas nécessaire que cette personne ait contacté la partie mais nous évaluons en plus s'il y a quelque chose de légitime. Donc, par exemple, Michele a une plainte. S'il y a, par exemple, un problème d'HTML qui clignote, si on nous envoie cette plainte, on se rend compte que ce n'est pas une plainte d'abus valide. Et bien sûr, nous n'allons pas faire suivre ceci à la partie contractante. Nous informons la personne que cela ne fait pas partie.
Nouvelle intervenant.
Alors, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à la plainte d'abus. Donc, on vérifie. Mais lorsque la nature de la plainte d'abus est telle qu'elle est illicite, illégale, et que certains critères s'appliquent, mais si le bureau d'enregistrement dit « mais comment est-ce que je suis censé savoir ? Est-ce que vous vérifiez la réponse ? Est-ce que vous vérifiez que le bureau d'enregistrement a reçu ? Parce que s'il ne sait pas si c'est légal ou pas, et si le titulaire dit « mais bien sûr que je suis légitime », nous, nous voyons des plaintes qui sont closes et donc l'activité illicite continue. Et quand nous demandons une clarification par rapport à la clôture de la plainte, alors lorsque cette activité est illégale, tout le monde dit « je ne sais pas si c'est illégal ou pas ». Il y a des agences, des sociétés qui sont prêtes à vérifier si les informations qui ont été fournies sont légitimes ou pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit toujours qu'il y a des problèmes de confidentialité ? Donc, on ne sait pas. Nouvel intervenant au micro. Lorsque Maggie est arrivée à l'ICANN, il n'y avait pas de processus en place pour ça. Et donc, grâce à une consultation avec la communauté, nous avons mis en place un processus qui est présent sur le site web. Il y a une approche par rapport à ça. Il y a le processus de résolution officiel et un processus informel. Donc, le premier, c'est déjà d'encourager la collaboration, le feedback avec les parties contractantes. Donc, toutes les informations restent confidentielles et il y a eu beaucoup de situations qui ont été résolues où les bureaux d'enregistrement, les opérateurs d'enregistre ont identifié une lacune dans leur processus, des rappels qui ne sont pas envoyés, des informations qui ne sont pas envoyées, etc., divulgation d'infractions, etc. Donc, tout ceci reste confidentiel de manière à encourager la collaboration pour résoudre le problème. C'est seulement lorsqu'on arrive à la phase de mise à exécution, en cas d'infraction, qu'il y a des détails qui sont fournis. Mais voilà la raison pour laquelle nous protégeons donc la confidentialité. Également, par rapport aux exigences du RA 2009, il n'est pas décrit, les actions ne sont pas décrites. Il nous faut quand même voir des mesures entreprises par les bureaux d'enregistrement de l'intervenant. Donc, de notre point de vue, il y a deux aspects. Premièrement, si ce titulaire de nom de domaine a fourni des informations requises pour une raison ou une autre, il faudrait que ce soit su de manière à ce que nous puissions arrêter de leur envoyer des notifications. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, encore une fois, cela revient que si les parties disent « on ne sait pas si c'est légal ou pas », à ce moment-là, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier que les informations qui leur sont données sont légales ou pas, sans s'adresser à une partie tierce ? Au moins, donc, il faudrait qu'il y ait une réponse à la personne qui s'est plainte au début avec les raisons A, B et C, ce permettrait d'avancer. À ce moment-là, la personne qui s'est plainte peut dire, bon, est-ce qu'il pourrait fournir X, Y, Z ? Et nous dirions, oui, nous sommes d'accord, c'est possible. Ou alors on pourrait dire, non, ça reste illégal. Mais cette potentialité permet en fait à cette action illégale, à cette activité illégale de se poursuivre. Alan Grogan au micro. Donc, je crois qu'une des questions, un des problèmes, c'est de savoir si les bureaux d'enregistrement ou l'ICANN peuvent prendre des décisions légales, factuelles. Donc, si on a une allégation d'activité illégale, on pourra avoir une base factuelle. Il faut savoir déjà quelle est l'activité illégale, telle illégale ou pas. Et en fait, les bureaux d'enregistrement n'ont pas ce pouvoir d'investigation. Ils ne peuvent pas aller faire une enquête là-dessus. Donc la question, c'est de savoir si le titulaire de nom de domaine ou le bureau d'enregistrement peuvent faire l'hypothèse de cette allégation. Est-ce qu'il est raisonnable pour le bureau d'enregistrement de dire « je ne peux pas savoir si oui ou non cette partie est en train de faire quelque chose d'illégal ?» Je crois que c'est ça le problème, en fait.
Padmini, I had a quick follow-up to that.
Nouvel intervenant au micro. J'avais un suivi. Alors, lorsqu'il y a des écarts, il y a un problème. Il faudrait que l'intérêt public divulgue le fait qu'il y a eu donc un écart après votre processus officiel. Et je parle de l'audit des opérateurs de registre. Donc, lorsqu'il y a un audit et qu'il y a effectivement un écart, est-ce que l'intérêt public n'éliminerait pas le besoin de confidentialité? Maggie, au micro. Excusez-moi, vous avez parlé trop vite, j'ai rien compris. Alors, je disais, lorsque vous faites un audit, que ce soit opérateur de registre du bureau d'enregistrement, et que vous vous rendez compte qu'il y a des écarts par rapport aux parties contractantes, pourquoi est-ce que ces rapports d'audit sont toujours confidentiels? Maggie, au micro. Merci d'avoir parlé plus lentement. Ce n'est pas que l'équipe de traduction qui a besoin qu'on ralentisse. Alors, merci pour cette question. Vous avez raison. Nous fournissons des informations sur ces écarts identifiés. Et la manière dont nous le faisons, c'est par le biais des rapports d'audit et également dans nos séances de sensibilisation. Alors, voilà un exemple des problèmes clés que nous avons identifiés pendant le processus d'audit et pendant les révisions. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est vrai. Nous avons terminé la révision de la documentation qui a été chargée. Nous émettons un rapport préliminaire de ce que nous avons ouvert. Et ce rapport, il est envoyé à la partie contractante. Ils regardent et ils disent, écoutez, vous n'avez pas bien compris ma réponse. Je vous donne une approche très simple. Donc, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, ce problème n'est plus un problème. Il y a eu clarification et nous devons collaborer. Donc, par exemple, en termes de dépôt légal de données, la spécification est très claire. Donc, comme vous le voyez, c'était le numéro 1. Nous avons d'ailleurs fait un rapport, nous en avons eu un. Mais donc, le rapport individuel, pour répondre à votre question, je ne l'évite pas, le rapport individuel, il est entre vous et la partie contractante. C'est un rapport opérationnel. Donc, après le rapport initial, nous ajustons. Donc, encore une fois, c'est une autre collaboration. C'est sous forme de résolution. Et n'oublions pas pourquoi nous faisons des audits. C'est pour partager avec la communauté de manière proactive l'intérêt, la validité de notre aspect opérationnel et notre respect des contrats. Donc, après le rapport initial, nous recevons les réponses, nous révisons, nous validons. Et comme vous avez entendu dans une de nos questions tout à l'heure, nous envoyons un rapport final à la partie contractante. Et je suis sûre qu'on les a envoyés, Maxime, d'ailleurs, mais je vérifierai. Nous envoyons un rapport final. Et donc, ce rapport final dit aux parties contractantes qu'il n'y a aucun problème identifié. Et donc, ceci permet de clore l'audit. Pour ceux qui ont toujours un problème, donc on a un plan de correction, on respecte toujours le plan du temps de l'audit, parce que la communication nous attend toujours. Intervenant au micro. Alors, un petit point de clarification. Je n'ai pas bien compris. Vous voyez, je suis bureau d'enregistrement. Et il y a un gros problème qui a été signalé. Vous faites votre audit, vous trouvez ce que vous avez à trouver et vous m'envoyez un rapport préliminaire de ce que vous avez trouvé. Et moi, je réponds et ma réponse n'est pas satisfaisante. Vous terminez le processus d'audit et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que la lacune a été réparée. Et votre audit dit, dans ce cas-là, est-ce que vous allez rendre ceci public pour la communauté? Est-ce que je suis toujours allée trop vite? Maggie au micro. Oui, j'aime beaucoup les gens passionnés, donc ça va. Donc, si nous en arrivons à un scénario où, bon, c'est pas que c'est mauvais, mais nous sommes tous ensemble, hein, alors il est tout à fait possible que vous ayez des parties contractantes qui ne répondent pas ou qui ne corrigent pas le problème. Donc, il y a deux aspects. Le manque de réponse, le manque de données soumises. Et à ce moment-là, on arrive à une autre phase. Encore une fois, le rapport d'audit qui a été envoyé aux parties contractantes ne sera pas publié. Contre, alors, regardez bien notre page de mise à exécution par rapport aux avis. Comme Owen l'a dit tout à l'heure, nous avons contacté plusieurs parties contractantes par le passé dans le biais d'un programme d'audit. Et donc, au départ, vous avez un résumé et en bas, vous avez une chronologie des événements et des problèmes. Donc oui, si possible, nous faisons des rapports à la communauté. Mais s'il y a une collaboration, une correction, il faut que ceci soit fait et il faut que ce soit dans le rapport d'audit. Hamleto de Zodiac, au micro. J'ai deux questions par rapport au dépôt de données des bureaux d'enregistrement. Là, vous avez un audit où vous testez les dépôts de données. Donc, ma première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin d'attendre l'audit pour tester ceci. Parce que normalement, on devrait pouvoir le vérifier au jour le jour. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est avec tous ces nouveaux GTLD, les bureaux d'enregistrement donc inscrivent de nouveaux GTLD tous les mois, voire tous les jours. Donc, comment allez-vous vous assurer que le bureau d'enregistrement dépose tous les GTLD qu'ils vendent, toutes les données qu'ils vendent? Donc, par exemple, ce mois, mettons que j'en ai 10 de nouveau, le mois prochain, j'en ai 20. Comment est-ce que vous vérifiez qu'ils déposent les 20 nouveaux GTLD, les données d'enregistrement?
Thank you, Pam, for your question. So, your question is twofold. Why do we audit and not just do it through?
La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait l'audit et pourquoi est-ce qu'on ne suit pas simplement de manière journalière? On fait les deux. C'est une validation supplémentaire, je comprends. Bon, Yann ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, mais on passe à un niveau supérieur, donc validation des données. Mais vous avez raison, nous recevons non seulement le fait que les données ont été déposées, mais nous faisons une validation et donc nous la recevons, cette validation. Donc, c'est une combinaison des deux. Et par rapport au nouveau GTLD, est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît? Nouvelle intervenante au micro. Admettons que je sois bureau d'enregistrement. Admettons que le mois dernier, j'ai vendu, je ne sais pas, 10 GTLD et qu'ensuite, j'en rajoute encore 10. Comment est-ce que l'ICANN peut s'assurer que je dépose toutes ces données de GTLD? Maggie au micro, merci. Nous recevons des notifications lorsque ce processus se produit. Lorsqu'un bureau d'enregistrement devient accrédité pour un autre TLD, nous recevons une notification. Donc, par exemple, si le bureau d'enregistrement avait un TLD historique, maintenant il en a 10 de plus dans le nouveau monde G, nous recevons une notification sur les nouveaux GTLD qu'ils ont. Là, et ce processus, nous l'avons également par le biais de l'agent des données. Et donc, nous commençons le processus à ce niveau-là. Nouvelle intervenante au micro. Est-ce que vous pouvez clarifier le comment? Comment est-ce que vous recevez ces notifications par rapport aux TLD qui sont hébergés par ou qui appartiennent à un bureau d'enregistrement? Et quel est le lien avec le dépôt de données? Alors, je vais vous répondre par email. Et je ferai le suivi avec vous plus tard. Merci.
Hi, Yasmina, I'm from Newstar for the record.
Yasmina, au micro. Est-ce qu'on pourrait passer au transparent 9, je crois? Les critères de sélection d'audit général, s'il vous plaît. Donc, j'ai quelques questions par rapport à cette diapositive. Les parties contractantes qui n'ont pas été auditées précédemment. Alors, comment est-ce que vous mesurez ceci? Donc, une réponse lente, je ne sais pas. En ce qui me concerne, si je réponds un jour avant la date butoir ou cinq jours avec la date butoir, est-ce que ça change quelque chose? La deuxième question par rapport aux préoccupations de la communauté ICANN. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous réfléchissez à déterminer pour savoir un petit peu comment on fait un audit d'un opérateur de registre. Quelles sont les préoccupations qui sont prises? Combien de personnes doivent s'adresser à vous? Quel est le type de questions qui doivent être soulevées? Parce que, de toute évidence, il y a des gens qui vont avoir un impact sur le fait que je sois audité ou non. Et ensuite, ma question suivante, c'est par rapport au transparent suivant.
So point six, eligibility criteria for the spec.
Alors, la non-disponibilité des critères en tant qu'opérateur de registre, est-ce que nous devons rendre publics les critères d'éligibilité pour les bureaux d'enregistrement? Je pense que la question est la suivante. Donc, en termes d'indisponibilité, ça veut dire quoi? Qui n'a pas ces données? Maggie, au micro. J'essaie de noter vos questions. Alors, revenons à la diapositive. En ce qui concerne la réaction aux demandes de l'ICANN, comme vous l'avez entendu par la communauté, et puis vous avez fait le suivi des demandes UDP, il y a un petit mystère, un gros mystère, par rapport au processus de collaboration. Même s'il est publié, donc la réaction basse, ce n'est pas seulement le délai d'exécution par rapport au dossier et la résolution des dossiers, mais c'est également la progression dans le processus, dans l'espace de collaboration. Donc, nous avons des parties contractantes qui parfois attendent le troisième avis pour répondre, mais on ne va pas attendre le troisième avis. Donc, on essaye d'effectuer une sensibilisation dans cet espace, mais aussi des appels individuels avec les bureaux d'enregistrement, et on voit vraiment des améliorations. Et vous voyez, sur la base des statistiques, vous avez vu donc le premier avis, le deuxième avis, le troisième avis, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. En ce qui concerne les préoccupations de la communauté, nous regardons un petit peu différents médias sociaux, différentes sources d'informations, différentes communications, et vous avez raison, nous n'allons pas passer d'une chose à l'autre. Nous allons essayer de mettre ceci en perspective dans l'environnement par rapport à l'ensemble de la vision. Parfois, il faut faire des perches. Parfois, il faut ajouter un aspect à l'audit.
Alors, le critère numéro 6. Alors, pendant ce processus d'audit, c'était l'une des demandes de RFI. Nous avions un certain nombre de parties qui n'avaient pas rendu cela disponible et donc ce critère concernait cette situation. Autre intervenant dans la salle, oui, merci. Alors, pour un suivi par rapport à cette réponse, donc ça va toujours être lié à la date butoir que vous nous communiquez, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Pamela Leto au micro, j'ai une question sur les critères d'audit des nouveaux GTLD. J'ai cru comprendre que le deuxième cycle de cet audit, qui a eu lieu en mars, voulait que l'un des critères d'exclusion, c'est que si le TLD était soutenu par le même fournisseur de services, alors vous alliez en sélectionner un sur ce groupe de GTLD. Pouvez-vous expliquer le motif de cela? Parce que j'ai un petit problème par rapport à cela. En effet, j'ai l'impression que, indirectement, cela irait à l'encontre des intérêts des autres fournisseurs qui sont soutenus par ces autres fournisseurs. Par exemple, si ce fournisseur soutient 300 TLD, 300 en seront sélectionnés. S'il en soutient 5, les 5 seront soutenus. Je voudrais également savoir comment vous sélectionnez ces 300 ou ces 500 GTLD. Maggie, au micro. Alors, deux corrections par rapport à ce que vous venez de dire. Cet audit qui a eu lieu, oui, effectivement, par rapport aux opérateurs de registre. Je pense que ça revient à la question qui a été posée auparavant. On a les mêmes opportunités d'étalonnage dans l'espace de registre. Donc, on essaie de faire encore une fois, c'est de prendre un petit peu de recul, voir quels sont les audits qui ont été finalisés en mars 2015 et voir les fournisseurs de services. Ce qu'on veut faire encore, c'est de récolter les fruits lorsqu'ils sont mûrs, c'est-à-dire En fonction des différents critères dont Yann vous a fait part, l'un de ces critères veut qu'on a besoin d'un échantillonnage des services, des fournisseurs de services, consiste à identifier un certain nombre de questions. Cela nous permet, pour le fournisseur de secours, que cela ne soit pas aussi important que le fait d'identifier un problème. S'il y a un problème, il peut être géré pour 5 comme pour 300 opérateurs de registre. Ce qu'on essaie de faire, c'est plus d'adopter une approche logique. Voilà un petit peu l'explication pour laquelle cet audit a été mené de cette manière. Il ne s'agissait pas d'une discrimination entre les petits fournisseurs et les grands fournisseurs. Pamela, oui, mais là, vous partez du principe que ces fournisseurs de secours fonctionnent de la même manière du point de vue opérationnel et commercial. Et ça n'est pas nécessairement vrai. Il peut y avoir une similitude dans l'infrastructure qu'ils utilisent, mais ils peuvent avoir des pratiques commerciales différentes. Donc, pourquoi est-ce que vous partez de ce principe-là et le considérez comme étant logique? Deuxième question. Pour les fournisseurs de secours, pourquoi vous sélectionnez 5 fournisseurs de secours? Maggie Omicron, merci de cette question. Vous l'avez très bien présenté. Il y a des points communs en termes d'infrastructure. Effectivement, du point de vue opérationnel, peut-être qu'ils agissent différemment. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de récolter les fruits lorsqu'ils sont mûrs. C'est-à-dire, il faut voir les points communs, ce qui n'exclut pas un audit à venir des autres parties prenantes. Ça, c'est un petit peu l'aspect logique. Maintenant, pourquoi sélectionner 1 sur 5? Je pense que lorsque Yann l'a expliqué, je n'ai pas le document sous les yeux, mais ce document a été publié. Si vous avez des questions encore sur ce document, je sais qu'il y a un critère qui a été retenu pour cela. Vous pouvez poser la question. Pamela dans la salle, oui, c'est la question que je voulais poser. Pourquoi avoir choisi ce critère en particulier? Bonjour, Peter Gray, au micro. J'ai une question sur le point de taux de réponse faible. Vous avez dit que ça dépend de la date butoir fixée par l'ICANN. Ce que je veux savoir, si vous envisagez, par exemple, vous avez fixé une durée de 7 jours pour le ticket. Que se passe-t-il pour un bureau d'enregistrement qui répond après 3 jours par rapport à un autre qui répond après 7 jours? Maggie au micro, merci. On ne pinaille pas autant, vous savez. Si je peux simplifier un petit peu les choses. La raison pour laquelle nous avons fixé ces délais, c'est plus dans un but opérationnel. Moi, si je dépose une plainte auprès de Delta Airlines, j'aimerais savoir mon dossier va être clos et résolu. Donc, que nous encouragions les parties contractantes à répondre dans ce délai, c'est parce que si une partie contractante répond immédiatement, et je me tourne vers les gens dans la salle parce qu'il y en a beaucoup qui le font, donc ils répondent immédiatement, ce qui nous permet soit de le régler s'il y a encore un suivi, parce qu'on fait ce suivi, on ne passe pas à l'étape suivante. Donc, quel que soit ce délai, 5-7 jours, si cette réponse n'est pas complète, alors on passe à la deuxième notification. Et ça permet une certaine coopération pendant cette durée. Certaines parties contractantes peuvent nous dire, voilà, pendant cette durée, j'ai besoin de 3 jours supplémentaires. Donc, on étend ce délai. Mais on a également le cas de figure inverse, où les parties contractantes ne répondent pas à la première, à la deuxième et à la troisième notification. Et si vous regardez les notifications de rupture qui ont été publiées, vous verrez que c'est le cas. C'est ce qu'on veut dire par cela. Je vous l'explique d'une manière générale. Maxime Ozort au micro. Que vous pourriez envisager la possibilité d'envoyer des notifications pour les services tels que le DNS, où on n'a que 4 heures de manière cumulative chaque semaine et pas 24 minutes comme on pourrait, ce qui représente beaucoup, représente 3% à peu près. Parce que lorsqu'un opérateur de registre a un incident avec le DNS en disant qu'il n'a pas accès à l'API, il doit passer du temps à enquêter pour voir ce qui se produit parce que le DNS ne fonctionne pas simplement avec un fournisseur. Il y a différents services qui fonctionnent de différentes manières. Donc, la communication ici, ça prend du temps, 10 minutes environ. Donc, en fin de compte, l'opérateur peut commencer à agir au bout de 30 minutes, 40 minutes. Ce qui est relativement faible par rapport aux 4 semaines hebdomadaires. Donc, est-ce que vous pourriez commencer à envisager la possibilité pour les opérateurs de registre de choisir de ne pas participer à cela et donc à intervenir après 5 minutes lorsqu'il y a un incident sur le DNS ou le DNSSEC? Maggie au micro, merci Maxime de votre réponse. Alors, question, est-ce que vous venez demain à la réunion? Bien entendu. Est-ce que vous pourrez poser cette question demain parce que nous aurons l'équipe technique, des services techniques avec nous? Et je pense que c'est un dialogue qui va intéresser beaucoup d'autres opérateurs de registre qui vont participer à cette réunion demain. Est-ce que vous êtes d'accord? Et merci, Maxime. Bonjour, nouvelle intervenante au micro. Merci de nous avoir envoyé les diapos à l'avance. J'en avais fait la demande et je l'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir eu cette amabilité. Maggie, au micro, est-ce que vous pouvez le répéter ça? Vous avez parlé trop vite, vous avez bien traduit dans toutes les langues? Non, plus sérieusement, je sais qu'il est très tôt, mais merci beaucoup. Merci de vos réponses de Christine et de beaucoup des opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement présents ici. Merci de votre patience. Nous savons que nous persévérons beaucoup et nous demandons beaucoup de données. Maxime au micro. Question rapide. Alors, dans vos relations internes, combien de cas ont été ouverts dans le cadre des accords avec les opérateurs de registre ou en dehors de ce cadre et donc ils sont clos? Par exemple, une partie tierce ouvre un dossier et dit voilà, on a fait ça et ça. Et donc, dans la réclamation, il est évident qu'ils ont oublié quelque chose. L'accès n'a pas été autorisé et la raison, c'est que il y a des données qui manquent. Et donc, en fin de compte, il apparaît que le dossier n'aurait jamais dû être ouvert. Donc, je comprends bien qu'il faut que vous arriviez à clore le plus de dossiers possible. Mais est-ce que vous pourriez envisager la possibilité de mettre en place des mesures d'encouragement négatives? C'est-à-dire, plus vous ouvrez de dossiers, moins ce sera bon pour vous. Maggie au micro. Oui, merci de cette question. Mais j'aimerais corriger une mauvaise perception, et c'est la deuxième fois que je l'entends de votre part cette semaine. Je ne sais pas bien ce que vous entendez par mesure d'encouragement pour clore les dossiers. En fait, j'aimerais revenir à la question que vous évoquiez. Effectivement, on prend en considération ce dossier. Parfois, ça peut être dû à un retard de communication, à une mauvaise interprétation. Et si on identifie cela suffisamment à l'avance, on clôt le dossier. Et parfois, on interprète quelque chose comme étant un problème de l'ICANN. Ça n'est pas forcément lié à la conformité, mais on assure un suivi et on le déduit du compte des opérateurs de registre et on le met sur le compte ICANN. Bien, nous avons encore 3 minutes. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de votre participation. et excellente fin de semaine à vous tous.